Pendant que la technique nous met la diapo, je vous invite à ouvrir votre Bible dans la deuxième épître de Pierre. Nous allons relire les 11 premiers versets. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er. Et le verset 3 commence ainsi: sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Ça, c'est déjà un cadeau extraordinaire de réaliser que Dieu nous a déjà tout donné. On a tout. Tout. Sa divine puissance, c'est pas une petite puissance. Aujourd'hui, je sais pas quoi faire, je vais vous donner. Non, sa divine puissance nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous ayons une vie spirituelle intense. Le sens de la phrase contribue à la vie, et après, il parle qu'on est associé à la nature divine. Donc, Dieu nous a tout donné. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. C'est-à-dire que nous sommes associés à une vie réelle, une vie spirituelle avec Dieu. Pas intellectuelle, mais une vraie vie spirituelle avec Dieu. En fuyant la corruption qui existe dans le monde, pas la convoitise. Et là, après un tel tableau où on voit que Dieu nous a tout donné, qu'on est appelé à vivre des promesses incroyables, voilà qu'il est dit au verset 5, à cause de cela même, justement, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, vous entendez ce mot-là, avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais, vous ne tomberez plus. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Amen. Alors, nous allons continuer sur notre réflexion sur les qualités bibliques, toujours faisant cette distinction, mais nous reviendrons dessus, sur la différence entre les fruits de l'esprit et les qualités, l'un étant ce que le Seigneur nous demande, l'autre étant les efforts que nous devons fournir. Nous avions vu la caractéristique de la sagesse. Nous avions vu également qu'il y a une évolution. Dans le texte, nous nous sommes parlé de partir de la foi, la révélation de Jésus-Christ et tous ses trésors, et il y a un but ultime à atteindre, c'est l'amour. L'amour avec le grand A, parce que la Bible nous dit que si nous n'avons pas l'amour, on a beau avoir tout le reste, ça ne sert à rien du tout. Rien du tout. Et puis, il y a dans cette construction une sorte d'image, nous disait d'abord parler de la foi, après de l'assistance du Saint-Esprit, et puis on doit arriver à une situation de plénitude, d'être construit. Alors, nous avions vu ce qui définit notre foi, cette œuvre transformatrice. Nous avions vu ce qu'était la vertu, une disposition constante à faire le bien et à éviter le mal. Donc la disposition de cœur à toujours rechercher l'excellence, la beauté, la pureté. Nous avons vu la semaine dernière ou celle d'avant, je ne sais plus, la notion de la connaissance qui n'est pas seulement, en tout cas dans ce point-là, une connaissance précise au sens pointilleuse, au sens de l'exactitude, mais plutôt la notion de la connaissance au sens de la compréhension des choses. La lettre tue, mais l'esprit édifie. Et puis, nous allons voir aujourd'hui Une autre qualité biblique qui nous est demandée d'avoir, c'est la maîtrise de soi. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, et à la connaissance la maîtrise de soi. Il y a quelque chose de logique. Parce qu'on peut être vertueux, avoir la bonne disposition de cœur. Ah oui, ce serait tellement bien. On peut avoir la connaissance. Je sais que c'est ça qui est bien. Et vous connaissez déjà la suite de la phrase. Et ne pas avoir la force, la maîtrise de soi pour accomplir ces choses. Alors, effectivement, nous sommes appelés à faire tous nos efforts pour que notre cœur soit bien disposé, pour chercher ce que Dieu veut pour nous. Mais également, Seigneur, je veux être maître de moi-même afin d'accomplir ta volonté. La notion de maîtrise de soi, on pourrait l'associer à la notion de discipline, de contrôle de soi-même. C'est cela. Nous sommes appelés à grandir dans le contrôle de nous-mêmes. Vous savez ce principe que Jésus lui-même a annoncé. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est une réalité. Je ne pense pas qu'ici quelqu'un puisse dire « Oh, moi je ne vois pas du tout de quoi tu parles, Benoît. » On sait ce que c'est que l'esprit bien disposé et réaliser qu'il y a quelque chose dedans de nous qui fait que on n'est pas à la hauteur de ce que notre volonté voudrait. Et Paul confirme cela en Galates chapitre 5 et verset 17. Il dit que la chair, la nature humaine, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Il y a forcément une opposition et ils sont opposés entre eux. Et c'est étonnant. Afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. Vous avez entendu la fin de la phrase là ? Afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. Je crois qu'il y a beaucoup de parents dans cette salle. J'ai pu vous apercevoir la réaction des enfants lorsqu'on les contrarie dans ce que eux voudraient faire. Ouais. Et c'est normal, c'est l'état de l'enfance. Mais la problématique est autre quand on parle d'un point de vue spirituel à des enfants de Dieu qui devraient être matures. Et la leçon d'aujourd'hui, c'est ça. Sommes-nous encore des bébés spirituels ? Non, je veux faire ce que je veux, mais à part que la volonté de Dieu, c'est que tu ne fasses pas ce que toi tu veux. Oh, je ne savais pas. Mais si. Et c'est pour ça qu'il y a toujours une dualité entre notre chair et la volonté de Dieu, entre nos natures humaines, ce qui est intrinsèque à nous, et on ne pourra jamais rien y faire que c'est comme ça, et l'Esprit de Dieu qui, lui, nous pousse à une vie de sanctification. Et il y aura toujours un conflit. La grande problématique n'est pas de savoir s'il y aura ce conflit ou pas, il sera toujours, toujours. La grande problématique, c'est de savoir est-ce que moi, je vais rester un bébé et que je vais pleurnicher chaque fois que je ne suis pas d'accord avec le Seigneur et donc je vais avoir une vie misérable spirituelle très basse. Ou est-ce que je vais accepter de joindre à ma vertu, de joindre à ma connaissance la maîtrise de moi ? Car ce qui fait la différence entre un bébé et un adulte, c'est cette capacité de gérer ses émotions, de passer outre. Parce que quand on est adulte, il y a encore plein de contraintes qui nous empêchent de faire ce qu'on veut, n'est-ce pas ? Mais on se roule par terre ! Enfin, j'espère. La responsabilité, ce que Dieu nous a donné là, c'est une grande responsabilité. Parce que Dieu nous fait confiance. C'est incroyable. Comme nous, parents, nous pouvons être très exigeants avec nos enfants. Fais pas ci, fais pas ça. Lève-toi comme ci, fais-toi comme ça. Bouge pas. On demande quelque chose, il faut que l'enfant il exécute dans les 3 minutes. N'est-ce pas ? On est exigeant avec nos enfants. Honnêtement, on est exigeant. Mais est-ce que nous avons la même exigence avec nous-mêmes ? Et c'est incroyable comme ce que nous pouvons demander à un enfant pour son bien.
Bien sûr.
Nous pouvons tentant le perdre pour nous-mêmes, alors que spirituellement, c'est aussi pour notre bien. La maîtrise de soi, c'est véritablement la capacité de nous rendre responsables spirituellement. De nous rendre responsables. C'est, on le verra tout à l'heure, c'est une promesse que Dieu a faite à Jérémie. Il lui a dit, si tu sais séparer de ta vie ce qui est vain de ce qui est profane, alors je me servirai de ta bouche pour que tu sois un instrument de bénédiction. Il y a véritablement dans le projet de Dieu, au travers de la maîtrise de soi, une volonté de faire de nous des disciples. D'ailleurs, ce mot disciple est caractéristique. Nous, aujourd'hui, on dit qu'on est des chrétiens. C'est le mot le plus commun. Mais au temps des premiers disciples, d'ailleurs, ils ne s'appelaient pas du tout chrétiens. C'est un peu plus tardivement que l'on va utiliser le mot chrétien. Et c'est même en plus une manière de se moquer d'eux. C'était ce qu'on appelle un quolibet. C'est les gens qui appelaient les disciples de Christ des chrétiens. Mais c'était vraiment une histoire de se moquer d'eux. Vous êtes des petits Christ. Mais il y a deux manières dans la Bible pour définir ce que nous appelons aujourd'hui un chrétien évangélique. Le premier, c'est le mot « saint » pour marquer sa marche, sa sanctification. Et le deuxième mot, c'est le mot « disciple ». Disciple. Ça, c'était les termes qui étaient employés, et vous les découvrez dans les épîtres. C'était les termes qui étaient utilisés pour définir ce que nous sommes appelés à être des saints et des disciples. Ouais, c'est tout un programme déjà. Aujourd'hui, quand on dit chrétien, on doit même un peu « Ah oui, mais moi je suis chrétien, mais ceci, chrétien, cela, tellement... » Mais quand quelqu'un dit « Ah, moi je suis un disciple et un saint, oh. » Alors bien sûr, dites pas ça à vos voisins. « Moi je suis un saint disciple, là, il va croire que vous êtes vraiment dans une secte. Hein. » Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est important de voir comment la parole de Dieu nous appelle et comment nous devons nous identifier à ce message. On comprend mieux pourquoi l'apôtre Paul va dire en la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27, 1 Corinthiens 9, 27. Il y a bien d'autres références qui parlent de ça, mais Paul dit « Je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » C'est dur quand même. Il se dit « Moi, je traite durement mon corps. Je suis sévère avec moi-même. Je le tiens assujetti. Je le maîtrise. Je suis disciple. Je discipline ma propre chair. Dans quel but ? Afin que lorsque je vais prêcher aux autres, il n'y ait pas de contradiction. Je tiens durement ma chair afin d'être maître de moi-même et afin de faire la volonté de Dieu. » Je suis dur avec moi-même, non pas parce que je crois mériter le paradis par ces efforts, ça c'est faux. Mais je tiens durement mon corps parce que je veux que ma vie soit le véritable reflet de ce que je prêche. Et nous prêchons quoi ? Une vie de grâce, une vie de sanctification, une vie de communion avec le Seigneur. Alors, nous allons voir quelques domaines dans lesquels nous avons besoin de maîtrise de soi. Nous avons besoin de discipline pour, premier point, valoriser le fruit de l'esprit. Vous connaissez Galates, chapitre 5, verset 22 ?
Les fruits de l'esprit.
Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. L'amour.
La paix.
La joie.
La patience. La bienveillance.
La bonté. La foi, la douceur, la maîtrise de soi. Normalement, ça m'est bien aimé, vous devriez répéter 3 fois par jour, matin, midi et soir. Et quand vous avez un petit moment de crispation, vous le répétez aussi. Non, mais je vous assure, notre vie spirituelle n'est fondée que sur la parole de Dieu. Si vous ne prononcez jamais, si vous ne proclamez jamais la parole de Dieu, si vous n'affirmez jamais la parole de Dieu sur votre vie, ne vous étonnez pas que vous ne viviez pas la parole de Dieu. Le Galates 5, 22, ça doit être le verset mais qui doit sortir de notre bouche. Parce que si vous ne confessez pas la vérité pour votre vie, mais la vérité ne vous affranchira jamais. Non seulement on s'aperçoit que la maîtrise de soi, c'est quelque chose qu'on doit rechercher. Mais comme on vient de le dire, pourtant, et c'est là qu'on pourrait être étonné, la maîtrise de soi fait déjà partie du fruit de l'esprit. Ben alors, pourquoi est-ce que quelque part Dieu nous donnerait la maîtrise de nous-mêmes et puis de notre côté, il faut faire de l'effort pour l'avoir? Le fruit de l'esprit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dieu, dans sa divine puissance, nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre une vie spirituelle entière, pleine. Une vie qui vaut la peine d'être vécue. Il nous a tout donné. Quelque part, pour employer le terme le plus adéquat, il nous a donné la capacité. Mais vous pouvez avoir un super bolide à la maison. Si vous ne l'employez jamais, vous n'allez jamais avancer. Dieu nous a donné la capacité. Il nous a donné... Et quand nous avons confessé nos péchés, que nous sommes repentis, que nous avons dit « Seigneur, change ma vie, change mon cœur », nous avons senti le fruit de l'Esprit remplir notre cœur. Cet amour, cette douceur, cette patience, cette grâce, cet accompagnement, cette maîtrise de nous-mêmes qui n'était pas dans notre nature première. Et je sais bien qu'ici, beaucoup ont déjà réalisé qu'une transformation dans la maîtrise d'eux-mêmes. Mais nous pouvons aller encore plus loin. Plus loin. La maîtrise de nous, elle est utile pour valoriser le fruit de l'esprit. Lequel des vignerons, lequel des viticulteurs, lequel des agriculteurs, lequel des arboriculteurs se dirait « Voilà, j'ai planté une vigne qui donne du raisin, j'ai planté des pommiers qui donnent des pommes. J'ai planté du blé qui donne du blé. Et puis se dire, voilà, j'ai planté. Et je laisse faire. Étant donné que de toute manière, le fruit, il est dans ma semence, quoi. Moi, je peux rien faire. Alors, je vais planter mon arbre. Et puis, je reviendrai à l'heure de la cueillette et puis ce sera bon. Et puis, chaque année, je ferai pareil. Et non. Non. Il n'y a pas un seul arboriculteur qui va se contenter de planter, de se dire, sous prétexte que la sève coule, sous prétexte que c'est sa nature de porter des fruits, alors je ne vais rien faire. Non, au contraire. Et on le sait. Il va au contraire tailler. Il va prendre soin. Certains arbres, il va les protéger du froid. D'autres, ils vont devoir même mettre des tuteurs pour les aider à grandir. Ils vont apporter des traitements nécessaires contre des maladies ou contre des invasions diverses. Mais il n'y a personne qui va planter un arbre fruitier en se disant « Sous prétexte que sa nature, c'est de porter du fruit, alors je n'ai rien à faire. » Et c'est ça la maîtrise de soi. Dieu a mis en nous le fruit de l'esprit. Amen. Il nous a donné le Saint-Esprit qui, normalement, nous pousse au fruit de l'esprit. Ça, c'est une évidence. Mais comme un bon agriculteur, nous devons travailler à nous tailler, à nous traiter, à nous protéger, afin que le fruit soit valorisé. Amen. Si nous ne faisons pas ça, regardez vos arbres fruitiers. Au bout d'un moment, ils finissent par pourrir, par perdre. Au mieux des cas. Au mieux des cas. Vous allez avoir des tout petits fruits. Mais au pire des cas, c'est même les fruits de votre vieille nature qui va revenir. Parce que si on garde la vie de l'esprit, si on reçoit la vie de Dieu en nous, et qu'on ne fait aucun effort, si on ne se maîtrise pas, s'il n'y a pas de discipline pour valoriser le fruit de l'esprit, alors je vous le promets, tôt ou tard, votre paresse vous amènera à la ruine. Vous retrouverez des réactions de vos vieilles natures. Vous allez retomber dans des écueils que vous pensiez avoir réussi à remporter parce que vous ne serez plus un disciple. Vous serez laissé porter par cette vie tranquille, sans discipline. Et non seulement au mieux des cas, vous aurez des petits fruits, à part que la parole de Dieu nous parle de fruits abondants. Reprenez Jean chapitre 15. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais c'est quoi la phrase avant ? Pour porter beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Dieu attend de nous beaucoup de fruits. Il n'attend pas des fruits parce que les fruits, c'est lui qui les fait. Mais ce qu'il attend de nous en tant que disciples, c'est de porter beaucoup de fruits. Et au pire des cas, et ben comme il est dit dans le verset 8, nous serons oisifs et stériles. Stériles. Pierre le dit, d'autres passages le disent. Relisez les paraboles de Jésus qui parle de ces arbres fruitiers qui ne portent pas de fruits. Et il parle clairement, on les coupe et on les brûle. Il n'y avait pas question là encore ce matin, oh, c'est sympa d'entendre des choses sur Dieu. Nous avons une responsabilité en tant qu'enfants de Dieu. Responsabilité qui n'est pas là pour nous faire peur, hein. Même si j'ai un ton un peu sec. Mais gardez juste les paroles. Mais on doit prendre conscience qu'on a un héritage tellement grand que le fait de le négliger, on s'appauvrit. La maîtrise de nous, elle est également essentielle pour servir Dieu. Sans discipline, il n'y a rien de durable. Il n'y a rien de durable. Dans ce monde, regardez, ce sont les travailleurs qui réussissent. Pour les choses matérielles. Sans discipline, il n'y a rien de durable. Les choses sont éphémères. On fera les choses sur le coup de l'émotion, de l'envie. Vous savez, comme les envies, ça passe vite. Hein. Comme les émotions, ça passe vite. Mais la discipline, il est dans une autre perspective. Il fait ce qu'il sait devoir faire parce que c'est la volonté de Dieu. Il ne va pas se dire si j'ai envie ou pas envie. Parce que la question de envie, pas envie, bah c'est là. C'est le combat entre l'esprit et la chair. Donc il y aura toujours une dualité, j'ai envie ou j'ai pas envie. Mais l'essentiel du disciple, c'est de prendre de côté ses envies ou pas envies. C'est pas ça qui importe, mais de se faire ce que Dieu attend de lui. Et c'est pourquoi, sans discipline, il n'y a rien qui perdure. Sans discipline, il n'y a pas de progrès. Sans discipline, il n'y a pas de progrès. Car c'est par la discipline que l'on peut constater ce qui est bon et chercher à améliorer ce qui ne va pas. Mais s'il n'y a pas de discipline, s'il n'y a pas de repère, s'il n'y a pas d'objectif, bah alors par rapport à quoi on va se comparer? Quelle orientation on va se donner à notre vie? Quel repère? S'il n'y a pas de discipline, c'est... on ne peut pas progresser. Sans discipline, les choses restent toujours au niveau superficiel. Parce que le principe même de la discipline, enfin de celui qui n'a pas de discipline, c'est celui de se contenter de la médiocrité. Le principe même de celui qui refuse la discipline, c'est qu'il se contente de sa médiocrité. À part que pour nous, nous avons un engagement qui n'est pas seulement par rapport à nous-mêmes, mais il est par rapport à Dieu, mes bien-aimés. C'est Dieu que nous servons. Et je suis sûr que chacun ici, si on devait lui donner la parole et qu'on devait lui dire, à votre avis, devons-nous servir Dieu avec médiocrité ou avec excellence? Vous savez tout ce qu'il faudrait répondre. La vertu, la connaissance. Il faut servir Dieu avec excellence. Mais l'excellence ne vient jamais sans discipline. Jamais. C'est pas faisable. Alors c'est vrai, disons-le tout de suite. J'ai pris quelques exemples après pour illustrer. Faisons attention, nous ne sommes plus sous la loi. Ne croyons pas que c'est par les œuvres que nous sommes sauvés, absolument pas. Nous ne faisons pas, nous ne cherchons pas l'excellence, nous ne cherchons pas, et on va aborder quelques sujets, pour se valoriser au-dessus de Dieu. Non. Nous sommes libres, affranchis, nous sommes appelés à la liberté. Mais Paul va dire, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon votre nature humaine. Selon la chair, c'est en Galates chapitre 5 verset 13 que vous pourrez lire ça. Ne pas faire de notre liberté un prétexte de vivre selon les tendances de notre nature charnelle. Je me suis amusé à faire un petit questionnaire d'évaluation. Et c'est vrai, nous préférons bien plus la vie selon la chair que les appels de l'esprit. Combien de fois jeûnons-nous dans le mois? Et combien de bons repas avons-nous préparés? Combien de chapitres lisons-nous par jour de la Bible? Et combien de temps passons-nous sur Internet? Je me suis même amusé à me poser pour moi-même la question. Combien de fois j'ai consulté Google et combien de fois j'ai consulté ma Bible? Là, j'ai moins souri à ce moment-là. Combien d'heures réservons-nous à la prière? Et combien de temps passons-nous devant la télé, au téléphone? Quel temps est-ce que je consacre à l'église, à ses projets, à l'évangélisation ou à visiter un frère et une sœur? Et combien de kilomètres, combien d'investissements de temps, physique, matériel, investissons-nous pour nos loisirs, nos distractions, nos plaisirs? Alors, soyons clairs, hein, dans tout ce qu'on vient d'énumérer là, il n'y a rien de mal. Il faut qu'il y ait un peu de détente, c'est pas de problème de regarder Internet, on doit vivre dans nos temps. C'est pas une question que c'est bien ou c'est mal, il faut manger et je vous invite à bien manger. Je peux même vous donner quelques adresses si vous voulez. Mais la discipline que nous allons nous infliger, la maîtrise de nous-mêmes que nous allons accepter de mettre en place dans notre vie, nous fera prioriser les choses. Et c'est ça l'important. Si nous n'avons pas de discipline, eh bien, nous n'allons pas avoir de priorité. Et les choses du monde, les choses de la vie, les choses de la chair vont prendre forcément une priorité sur les choses spirituelles. Et là, le jeûne, on va oublier. La prière, on va négliger. La lecture de la parole de Dieu, elle va prendre un second plan. La méditation, je suis trop fatigué, etc. Et on va laisser du temps aux choses vaines qui, elles, vont prendre toujours plus de temps. Sans discipline, nous sommes incapables de gérer toutes ces influences de ce monde. Non pas qu'on n'est pas capable, mais parce que nous sommes dans un combat spirituel. Et naturellement, charnellement, votre pasteur en premier, si ça peut consoler votre conscience, est plus attiré par la fainéantise que par l'effort spirituel. Je suis bien plus attiré par mon lit que par la prière à genoux. Je suis bien plus à apprécier le poulet de mon épouse qu'un jeûne. Mais en tant que disciple, qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que je vais faire? Et c'est cela. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a donné par son esprit la capacité d'avoir la maîtrise de soi. Que personne ne puisse se dire ce matin, mais moi c'est pas possible. Si tu as confessé tes péchés et si tu as réclamé à Dieu de venir dans ton... Il t'a donné la capacité. Et c'est vrai que de temps en temps, on a tellement l'impression que les choses de ce monde nous attirent, nous agrippent, qu'on a l'impression que c'est plus fort que nous. Mais c'est faux. Et c'est là qu'il faut encore confesser la parole de Dieu. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je tiens durement mon corps. Et Paul, qui devait être un homme très rempli d'esprit, qui était un disciple parfait, il dit lui-même, je tiens durement mon corps. Il sait qu'il n'y a pas plusieurs solutions. Il est sévère avec lui-même. Il s'oblige. Il se fait mal en sa chair. Mais je nous souhaite tous d'avoir le ministère de Paul. Mais il y a un prix à payer. Jésus l'a dit, qu'il fallait renoncer à soi-même. Il y a un prix à payer. Tel qu'il a été, nous devons être. Christ a souffert. Vous aussi, armez-vous de la même pensée. Cette discipline, cette maîtrise de nous, nous amènera à grandir et à mieux servir le Seigneur. Je prends ici la peine de rappeler la référence de Jérémie, chapitre 15, verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Tu te tiendras devant moi, et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Amen. Il y a une promesse de bénédiction. Quand l'homme, la femme, apprend à séparer de sa vie ce qui est précieux de ce qui est vil, il peut devenir là un instrument de service pour Dieu. Nous avons besoin
De la discipline.
Pour l'exercice des dons spirituels. Alors il y a une caractéristique dans la première épître aux Corinthiens, c'est qu'il y a ce que j'appelle moi le sandwich pentecôtiste, qui se trouve entre le chapitre 12 compris, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14. On ne va pas le lire entièrement, je prendrai le temps de le méditer à la maison, mais je vais vous donner quelques axes de lecture. Au chapitre 12, alors le chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, parlent tous les trois des dons spirituels. Comment ils présentent la chose, Paul ? Au chapitre 12, il fait une explication, j'ai envie de dire, de foi. Il explique ce que sont les dons spirituels. Il donne la consistance avec les neuf dons. Il explique don de discernement des esprits, don de la foi, don de sagesse, don de miracle, don, comme je l'ai fait dans le désordre, je suis moi-même perdu, don de guérison, parler en langue, interprétation, et j'en oublie, excusez-moi. Dans le chapitre 12, il définit les dons et il suscite la foi. Il nous fait réaliser qu'on peut rentrer dans quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, il continue avec les ministères. Il y a là l'enrichissement et il veut susciter la foi. Et puis, il va dire, mais je vais vous montrer un chemin par excellence pour exercer ces dons spirituels. Oh, alors, regarde, c'est quoi ? Mais c'est l'amour. Le chapitre 13 connu pour être le chapitre de l'amour, mais le chapitre de l'amour est un élément indispensable pour l'exercice des dons spirituels. C'est pas juste histoire de se taper l'épaule, la main dans l'épaule, ah, je t'aime mon frère, ma soeur, c'est bien, il faut vivre ça. Mais Paul a une vision de disciple. Vous voulez exercer les dons spirituels, ayez la foi, chapitre 12. Grandissez dans l'amour, recherchez l'amour. Déjà, le seul fait de dire « rechercher l'amour », c'est qu'il y a un effort à faire. Et le chapitre 14, et là, il rentre dans la dimension pratique. Oh, quand quelqu'un qui rentre, là, ne parlez pas 12 langues, sinon ils vont tous vous prendre pour des cinglés là-dedans. Et là, il va parler après de l'exercice pratique des dons spirituels. Nous avons besoin de maîtrise de nous dans le cadre de l'exercice des dons spirituels. À ces trois niveaux. Au niveau de la foi. Parce qu'il faut de la discipline pour rechercher les dons spirituels. Je ne vous demande pas une réponse, je vous pose juste la question. Mais cette semaine, avez-vous recherché les dons spirituels ? Les avez-vous réclamés à Dieu ? Les avez-vous énumérés ? Les avez-vous cités ? Vous allez vous projeter en disant, mais Seigneur, si tu me donnais ce don, est-ce que vous êtes même imaginé, Seigneur, mais si un jour j'ai un don de guérison, comment je pourrais le manifester? Mais c'est ça la foi. C'est pas se dire, tiens, je sais qu'on peut avoir un don de guérison, bon, bah, si ça me tombe dessus, on verra. Mais il y a une projection, une aspiration, car la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Seigneur, moi j'espère avoir le don de guérison. Et si j'ai cette ferme assurance, eh bien je me projette déjà comme si demain, ça allait le faire. Et il faut de la discipline pour réclamer régulièrement. Et même si Dieu ne me donne pas, je ne vais pas être un bébé, je ne vais pas me rouler par terre. Dieu donne comme il veut, à qui il veut. Amen. Mais Seigneur, que tu me trouves dans cette dimension de foi. Parce que si je ne suis pas dans cette dimension de foi, est-ce que vous pensez que je vais recevoir quelque chose ? Est-ce que vous pensez que vous allez recevoir quelque chose ? Il faut de la discipline dans notre foi. Il faut de la discipline pour rester dans la dimension de l'amour. Car qu'est-ce qui définit vraiment l'amour ? C'est le fait de penser à l'autre avant soi-même. Le don spirituel n'est pas fait pour me glorifier. Pour qu'on dise, oh, la sœur Intel, oh, t'as vu, elle a prophétisé. Oh, le frère Intel, oh, il a reçu quelque chose du Seigneur. Mais ça, ça n'a pas d'importance. On n'est que des outils. Quand on construit une maison, on ne regarde pas la truelle. Oh, quelle truelle extraordinaire ! C'est qu'une truelle, elle a juste fait ce qu'elle avait à faire. Par contre, on va dire, on va féliciter le maçon. Dans les dons spirituels, ce n'est pas l'instrument qu'on doit glorifier. C'est lui qui donne, qui inspire. Mais il faut de la discipline pour se dire ce matin et les autres jours, je vais aller à l'église Et Seigneur, sers-toi de moi pour être en bénédiction pour mon frère. Sers-toi de moi pour que je puisse être un sujet de bénédiction pour mon frère, pour ma sœur. Je souffre dans mon cœur de ce que mon frère ou ma sœur soit dans la souffrance. Seigneur, s'il te plaît, sers-toi de moi pour bénir mon frère, pour bénir ma sœur. C'est pas de l'amour que de venir à l'église juste pour se faire du bien. Ça, ce n'est pas de l'amour. Mais Seigneur, je veux venir dans ta maison pour que je puisse être un instrument de bénédiction, pour que mon frère soit guéri, pour que telle personne puisse avoir une parole dans sa vie, pour qu'il y ait une conviction, pour qu'il y ait des délivrances. C'est ça l'amour. L'amour fait que l'autre a plus d'importance que nous-mêmes. Il faut de la discipline pour ça. Parce que notre nature humaine nous fera toujours ramener à notre petite vie, à notre petit estomac, à notre petit confort, à notre petit train-train, à notre petit orgueil, à nos petits soucis. Il faut de la foi et il faut de la discipline pour vivre le chapitre 14. Parce que le chapitre 14, c'est la vie pratique des dons spirituels. Et il faut le reconnaître, il faut de la discipline, il faut de la maîtrise de soi-même. Pour gérer ce que je dirais la communication d'un don spirituel. Je ne suis pas d'accord avec cette parole. Ouvrez les guillemets. Ah, c'est plus fort que moi! Je ferme les guillemets. Suite à un don spirituel. Ce n'est pas le don spirituel qui nous pousse à ne plus être maître de nous-mêmes. Par contre, la gestion de l'émotion, si elle n'est pas maîtrisée, peut nous faire dire « Ah, c'est tellement fort que !» D'où la nécessité d'avoir la maîtrise de nous. Parce que c'est vrai, lorsqu'on reçoit quelque chose du Seigneur, que ce soit pour une parole de connaissance, soit pour un don de guérison, que ce soit pour une parole inspirée, il y a comme une sorte de doute qui vient se déposer dans notre cœur. Le seul fait de recevoir quelque chose, on commence à se dire « Oh ben non, c'est pas possible !» Dualité entre la chair et l'esprit. Et c'est tout à fait normal que quand quelque chose se dépose sur notre cœur, quand Dieu nous donne quelque chose de sa nature divine et qui touche notre nature misérable, alors bien sûr, au-dedans de nous, ça peut chauffer. L'émotion peut prendre le dessus. Ça commence à être fort. D'où la nécessité d'avoir la maîtrise de soi. Parce que malheureusement, par nos émotions, on peut discréditer le don que l'on a reçu. On peut plus faire attirer l'attention sur l'émotion débordante que sur le don en tant que tel. S'il n'y a pas de maîtrise de nous-mêmes, on va plus se laisser emballer par l'émotion que fixer notre attention sur « Seigneur, qu'est-ce que tu veux vraiment que je fasse ?» Alors c'est tout à fait normal, hein. Ça s'apprend. Et je l'ai déjà dit dans cette église, je préfère qu'il y ait des débordements de vie que des silences de mort. Donc, pas de problème les débordements. Il vaut mieux gérer la vie que gérer la mort. La mort, il n'y a plus rien à faire. S'il y en a qui sont débordants d'émotions, c'est pas grave, on va apprendre à gérer. Les uns ne vont pas s'offusquer, ils vont dire « Ah, on va prier pour notre frère, pour notre sœur, pour qu'elle apprenne à gérer cette émotion, pour qu'elle grandisse dans la maîtrise de soi. » Mais je vous en supplie, je préfère que vous soyez tous comme des saints de lait que tous comme des morts. Parce que il n'y a pas de scindler avec le Seigneur, il y a juste une maîtrise de soi-même à avoir, à développer, à exercer. Et nous l'userons en ce lieu. Alors oui, on a besoin effectivement de maîtrise de soi, à la fois pour la disposition des dons spirituels, mais également pour l'exercice des dons spirituels. Nous avons besoin encore de discipline, de maîtrise de soi. Vous allez vous apercevoir qu'en certaines circonstances, on arrive à brider notre langue, n'est-ce pas ? Hein ? Il y a des fois où on sait bien faire. Hein ? Même on ravale notre salive même. On serre bien la mâchoire. Donc il y a des fois, on est très capable de maîtriser notre langue. Et puis on s'est aussi aperçu plus d'une fois. Comme on a été nul. Hein ? Comme on s'est parti comme ça là. On n'a même pas eu le temps de réfléchir à ce qu'on voulait dire, que c'était déjà sorti avec le point final à la fin de la phrase. Mais on a besoin, Seigneur, apprends-nous. Alors, Est-ce que c'est même une bonne prière? Oui, je pense qu'on a droit de dire, Seigneur, apprends-moi à maîtriser ma langue. Mais la Bible, elle, nous invite à faire tous nos efforts pour nous maîtriser nous-mêmes. Le Saint-Esprit ne fera pas le travail à notre place. Il est là comme un aide, mais c'est à nous de faire tous les efforts pour que notre bouche soit le reflet de la gloire de Dieu. C'est Jacques, chapitre 3, verset 2, qui dit que si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Amen. Mais c'est exactement ce qu'on recherche. Seigneur, je veux tenir mon corps entièrement en bride. Je veux être maître de moi-même entièrement. Il dit, ah bah tu vois, bah, si tu arrives à faire un travail sur ta langue, eh ben, tu arriveras à maîtriser tout ça. Alléluia. Donc il y a vraiment une continuité entre cette maîtrise de nous-mêmes et ce petit truc-là qui bouge beaucoup dans notre bouche. Seigneur, ne permets pas que nous soyons des bébés, mais permets-nous d'être des hommes matures, forts, solides. Amen. Le dernier point, nous avons besoin de maîtrise de soi, de discipline pour agir avec courage. En fait, il y a deux mots, j'ai cherché à trouver une formule simple. Agir avec courage. C'est vrai que bien souvent, quand on pense à la maîtrise de soi, on a plutôt l'image, comme on vient un peu de l'écrire un peu avec la langue, mais effectivement, ça va permettre de continuer la pensée. La maîtrise de soi, on la voit souvent comme une sorte de restriction. On se retient, on arrête, on canalise. Mais, alors peut-être que je suis le seul à avoir vécu ce genre d'expérience, mais il m'est arrivé plus d'une fois d'être dans des situations où j'aurais dû agir et je me suis senti comme paralysé. Ou j'aurais dû prendre position en public. Je sais que j'aurais pu. Et je ne l'ai pas fait. Ou j'aurais dû parler à quelqu'un dans la rue. Et je ne l'ai pas fait. Ou j'aurais dû exercer un don spirituel dans l'église. Je ne l'ai pas fait. La maîtrise de soi, ce n'est pas seulement pour être dans une situation de recul, de repli, de confinement. Allez, on étouffe tout ça. Non. La maîtrise de soi, c'est aussi pour pouvoir agir. Seigneur, donne-moi d'avoir cette audace. Donne-moi d'avoir ce courage à faire ce qui est bon de faire. Donne-moi cette hardiesse, car il nous est dit en 2 Timothée chapitre 1 verset 7 que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais au contraire, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et là, on est en train de boucler encore la boucle avec l'esprit du Seigneur. Seigneur, je veux avoir cette maîtrise de moi-même afin de ne pas me laisser retenir par mes craintes. Je veux avoir cette maîtrise de moi-même sur mes peurs, sur mes appréhensions. Regardez toutes les fois où, quand on ne fait pas, oh, on a plein de petits raisonnements. Ah oui, mais non, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, mais comment je vais faire? Mais Seigneur, donne-moi cette hardiesse. Je veux être maître de moi-même. Je veux être maître de mes pensées qui me paralysent. Je veux être maître de tous ces raisonnements qui m'empêchent de faire ce que pourtant je sais ce qui devrait être bon de faire. La maîtrise de nous-mêmes, c'est fait pour agir avec ce courage, avec ce zèle, avec cette conscience que, Seigneur, je sais que c'est à ça que tu m'appelles à faire. Cette étincelle de courage qui fera toute la différence dans l'action. Où on sera plus comme paralysé, retenu par nous-mêmes, par nos raisonnements. Mais Seigneur, je veux prendre cette domination sur moi-même. Je veux pouvoir aller au-delà de mes limites dans ces circonstances. Amen. Que le Seigneur nous aide à joindre à notre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de nous-mêmes. Amen. Dieu nous a tout donné. Nous n'avons plus que faire tous nos efforts pour que tout ce que nous disons devienne concret dans notre vie et que nous allions plus loin dans l'héritage spirituel que Dieu nous a donné. Amen. Amen.